Chapitre 24. Les cinglés avaient entièrement vidé la baraque. Seuls des chaînes et des bracelets rouillés scellés dans les murs témoignaient des sinistres activités pratiquées dans ces pièces où flottait une odeur indéfinissable entre boucherie et usine désaffectée. Le groupe au complet et les techniciens passaient la maison au crible, du sous-sol au plafond. Ils bossaient en silence, les traits durcis par une rage rentrée, gantés, ramassant dans des sacs plastiques tout objet, tout cheveu, tout bout de papier, tout déchet organique ou non, susceptible de les mettre sur une piste. Tous avaient en tête leur équipière, Sylvaine, coincée sur son lit d'hôpital avec une balle dans la colonne vertébrale. Les toubibs, optimistes sur le pronostic vital, ne s'étaient pas prononcés sur les séquelles de sa blessure. Ils ne savaient pas si elle resterait paralysée des deux membres inférieurs après l'opération délicate prévue dans les heures à venir. La balle était mal placée. Sylvaine avait perdu beaucoup de sang et le transport dans le camion du SAMU n'avait pas arrangé son état. Pas le choix. On ne pouvait pas dresser un hôpital de campagne sur une allée de terre d'un quartier paumé de nos gens. Déjà un miracle que les secours soient arrivés à temps. Edmé s'était allongé contre Sylvaine et lui avait parlé à l'oreille jusqu'à ce que les lumières clignotantes et la sirène de l'ambulance sabrent les ténèbres. L'homme et la femme qui habitaient la maison voisine étaient restés près du couple de flics, emmitouflés dans leur robe de chambre. Edmé avait mis une vingtaine de secondes à les convaincre devant l'objectif de la caméra de surveillance, les menaçant d'être poursuivis pour non-assistance à personne en danger s'ils ne lui donnaient pas immédiatement accès à leur téléphone. Anciens commerçants, ils avaient acquis leur fortune à la sueur de leur front et vivaient dans la terreur de perdre des biens patiemment amassés. Ils s'étaient construits un véritable bunker avec un abri anti-atomique, des réserves alimentaires pour plusieurs mois, une immense salle de billard, des écrans plats dans toutes les pièces et une piscine couverte. Et voilà que les flics et les voyous venaient régler leurs comptes dans ce quartier de Nogent, choisi pour sa tranquillité et son voisinage. Des retraités aisés, comme eux, voilà qu'on s'entretuait sous leurs fenêtres, sur le pas de leurs portes. Lui, ventre proéminent, cheveux ras, face plissée de bulldog, s'était muni d'un flingue avant de sortir. Edmé n'avait même pas cherché à l'en dissuader. Ce genre de type possédait certainement un permis de port d'armes et aurait été trop heureux de l'exhiber. Pendant que les ambulanciers chargeaient Sylvaine dans le véhicule, Edmé avait glissé aux deux retraités que son équipière n'aurait pas été blessée s'ils avaient ouvert leur satané portail la première fois qu'elle avait sonné. Il ne leur avait pas laissé le temps de répondre et s'était installé plein d'amertume sur le siège passager de l'ambulance. Sylvaine se débattait entre la vie et la mort dans une chambre de la pitié salpêtrière. Il n'avait pas mérité le prénom stupide choisi par sa mère. Riche protecteur. Tu parles d'un protecteur. Il n'avait même pas réussi à protéger la seule femme qui lui eût témoigné de l'intérêt depuis une éternité. L'autre salopard l'avait flingué sous ses yeux. On avait trouvé sur le cadavre du tueur des jumelles à visée infrarouge, des clés, 300 euros en billets de 20, mais aucun papier, aucun carnet, pas une adresse, pas un numéro de téléphone. Aucun portrait, aucune trace de son ADN ni de ses empreintes digitales dans les divers fichiers. À croire qu'il sortait de nulle part. Edmé était resté à l'hôpital jusqu'au passage matinal de Patrice Giovanni, le chef de groupe. Après leur visite à Sylvaine, une démarche parfaitement inutile dans la mesure où elle restait plongée dans un sommeil artificiel, ils avaient bu un café dans l'un des troquets du grand hall.
« On va pouvoir mettre du monde sur ton affaire », avait dit le chef du groupe. « Le ministre peut se pavaner dans les médias. » On a enfin serré le tueur en série des beaux quartiers. Prends 2 ou 3 jours pour te soigner et te remettre. Tu as une tête de déterré.
Hors de question. Je pionce quelques heures et je rejoins le reste de l'équipe.
Comme tu veux. Mais si tu ne te pointes pas aujourd'hui, personne ne t'en voudra.
Vous n'avez pas remarqué notre absence au bureau? On est quand même resté plus de 4 jours sans donner la moindre nouvelle.
Je me suis demandé ce que vous foutiez, effectivement, mais on avait tous la tête dans le guidon. On a passé nos jours et nos nuits à traquer l'autre dingue des quartiers ouest. Un gosse de 20 ans, tu te rends compte? Et j'ai pensé que votre enquête vous avait éloigné de la région parisienne.
Sylvaine est une excellente procédurière. Elle respecte la hiérarchie. Elle t'aurait prévenu au moins en te laissant un message, tu la connais. Et puis, avec ce qui était arrivé à Hassan sur l'île aux loups, vous auriez pu être un peu plus attentif.
D'accord, disons que j'ai été un peu léger sur ce coup-là et que je me retrouve avec 2 blessés dans l'équipe. Mais encore une fois, on était sous pression.
Et Sylvaine et moi, on était seulement enchaînés dans une putain de cave avec des cinglés dont le passe-temps favori est de pratiquer tout un tas de tortures sur de pauvres bougres avant de les jeter dans la Marne. Giovanni avait vidé sa tasse avec un haussement d'épaule.
Qu'est-ce que tu veux, Edmé? On ne choisit pas toujours ses emmerdes.
À propos d'emmerdes, Patrice, je suis toujours dans le collimateur.
Giovanni s'était essuyé les lèvres avec la serviette en papier sur laquelle il avait abandonné deux traces brunâtres.
Ah, Sylvain t'a dit.
Le chef de groupe n'avait pas laissé filtrer la moindre émotion.
4 jours d'intimité avec une femme, ça crée des liens, pas vrai? Bon, t'es une sorte de héros maintenant, et on touche pas aux héros. Qui sait, peut-être que tu pourrais passer chef de groupe.
Suivi de Julien Ganzard et de Paul Sérignon, les 4e et 6e du groupe, Edmé entra dans la pièce du sous-sol où Sylvain et lui avaient vécu leur cauchemar. L'endroit lui parut, à la lumière des torches, plus large, moins oppressant que dans son souvenir. Le cadavre du jeune taré à tête d'Iroquois qu'il avait étranglé avec son entrave ne s'y trouvait plus, évidemment. Rien d'autre que les restes de chaînes scellées au mur et les débris de la bouteille fracassée sur le sol. Le plateau avait disparu et une forte odeur de chlore indiquait qu'on avait lavé la pièce à l'eau de Javel avant de partir. Des taches blanches criblaient les capitons des murs et de la porte.
Paul Sérignon émit un petit sifflement. « Pas mal comme chambre d'hôtel. T'es vraiment resté là-dedans 4 jours, le miso ?»«
J'avais réservé, » lâcha Edmé.
« Et comment t'en es sorti ?» demanda Granzard.
Pour la 5e fois, Edmé raconta comment il avait piégé le petit taré à tête d'Iroquois en l'excitant et en lui faisant oublier toute prudence. Il avait mis au point une version express, édulcorée.
« Putain, on se croirait dans le tombeau hindou, tu sais, le film de Fritz Lang !»
s'exclama Paul Sérignon.
« Je te savais pas si calé en cinoche, le sud !» fit Granzard.
« Je suis pas calé, grincheux, c'est seulement que je suis tombé dessus par hasard à la télé avant-hier soir. »
« Le type dans le film a fait comme Edmé, il a attiré son garde-chiourme pour l'étrangler avec sa chaîne !»
Ils inspectèrent les autres pièces du sous-sol, n'y trouvèrent rien de très intéressant, rejoignirent le groupe de techniciens sur le ponton de béton. 3 plongeurs exploraient le fond de la marne.
Salut les cow-boys, lança Blachon, le technicien aux yeux de chien battu.
Ça boum les planqués, répliqua Granzard.
On a trouvé 3 corps tout près d'ici.
Blachon évita de croiser le regard d'Edmé.
Une femme et 2 hommes, on est en train de les remonter.
L'agitation soudaine dans ce coin habituellement paisible des bords de marne avait attiré les curieux sur la rive, obligeant les gardiens de la paix à établir un large périmètre de sécurité autour du pavillon. La surface de la rivière et le ciel étaient du même gris sombre. Un vent froid, mordant, soufflait en rafale, et malgré le vert tendre des frondaisons, on aurait pu se croire à la Toussaint. Edmé aurait parié que les 3 corps étaient ceux d'un jeune homme tatoué à crête d'Iroquois, d'un balèze au cou entaillé et d'une femme tailladée sur tout le corps. L'association de psychopathes s'en était débarrassée elle-même, puisqu'elle ne pouvait plus les confier aux forcenés de l'île aux loups.
« J'avais raison sur un point, » reprit Blachon. D'ici, le courant envoie les objets flottants sur la rive de l'île aux loups. Le mec de l'île n'était peut-être pas obligé de se déplacer pour récupérer les corps.
Il se la jouait efficace, professionnel, le technicien. Oubliant un peu vite qu'il s'était foutu de la gueule d'Edmé quelques jours plus tôt, qu'il avait rejeté avec mépris l'hypothèse du violeur nécrophile.
Tu veux dire qu'on les lui expédiait sur le courant, un peu comme sur un tapis roulant?
Releva Paul Sérignon avec une moue dubitative.
Ces mecs sont des pros. M'étonnerait qu'ils aient pris de tels risques.
Pourquoi?
C'est plus discret que le bateau. J'ai calculé, il faut environ 3 minutes pour que le courant emmène un cadavre jusqu'à l'île. Et il le dépose toujours au même endroit, dans la petite crique. Les objets flottants finissent par être repris par d'autres courants et emportés plus loin. Mais le type de l'île avait largement le temps de récupérer les cadavres et de leur faire subir les derniers outrages avant de les couler avec une pierre autour du cou. Enfin, quand il leur restait un coup.
Blachon se tourna vers Edmé et le fixa droit dans les yeux.
« Tu avais raison sur un point, le miso. Ce dingue ne tuait pas les victimes. Il se contentait de les baiser une fois mortes avant de les foutre au fond de l'eau. Dernier amant et fossoyeur, toutes les perversités sont dans la nature. Ça explique aussi pourquoi on trouvait d'autres traces de sperme que le sien sur les cadavres.
« Je comprends toujours pas pourquoi les bargeaux du pavillon lui confiaient ce boulot, »
insista Paul Sérignon. Blachon observa la surface hérissée de la marne avant de répondre. Edmé alluma une cigarette. Sans l'état préoccupant de Sylvain, il aurait apprécié chaque cadeau que lui offrait la vie, la chaleur de son lit, le café du réveil, la douche brûlante du matin, le baume apaisant sur ses plaies ébosses, l'âpre fumée de la cigarette dans sa gorge et ses poumons, la caresse de la bise sur son visage, les sifflements des bourrasques dans les ramures, l'odeur et la rumeur de la ville. Depuis qu'il était sorti des sous-sols de ce pavillon, il n'existait plus de petits et grands moments.
seulement des moments d'une incroyable densité, y compris son inquiétude pour Sylvaine, y compris sa colère contre ceux qu'il avait peut-être mutilés à vie.
« Ce sont des pros, comme tu l'as dit, le Sud, » finit par répondre Blachon. « Adeptes de la division des tâches, comme les nazis en leur temps. La preuve, sans la perspicacité d'Edmé, il s'était légèrement crispé en expulsant ces mots. Et aussi de Sylvaine, bien sûr, on n'aurait pas établi le lien entre les cadavres et eux. Et ils auraient tranquillement continué leur petit trafic ailleurs, sans que personne n'en sache jamais rien. Reste à trouver le lien, s'il y en a un, entre les victimes, avança Grandzard.
On n'a que dalle pour l'instant. Seulement le fait qu'elles ont toutes été torturées d'une manière ou d'une autre, sans doute dans les sous-sols de ce pavillon, avant d'être transportées dans l'île, profanées pour la plupart d'entre elles et coulées au fond de la rivière.
Les plongeurs firent leur apparition à la surface de la Marne. Ils ramenaient le premier corps, celui de la femme. Edmé n'avait pas eu l'occasion de contempler son visage, mais il la reconnut tout de suite aux entailles multiples qui lui zébraient le corps. Elle avait, à vue, dans les 30 ans, des épaules et des hanches larges, des seins lourds, des cheveux très courts avec des trous sur les côtés, comme rasés à la hâte avec une tondeuse de piètre qualité. Un moellon attaché à son cou l'avait maintenu au fond de l'eau. On la tira sur la berge, on l'allongea sur le dos, puis sur le ventre, pour la photographier avant de l'installer dans un sac mortuaire. « Il y a forcément un lien, » marmotta Edmé, lèvres serrées.
« Lequel ?» releva Grandzard.
« Toutes ces victimes. Jamais personne n'a signalé leur disparition. Comme si elles n'existaient pas. »«
Justement, on peut pas dire que ça facilite le boulot. » »«
Tous des SDF, des marginaux, des gens qui se sont désocialisés ou dont on a effacé les traces. » Les plongeurs remontèrent le deuxième corps. Un homme jeune, avec une crête au milieu du crâne, des tatouages sur les bras et sur les tempes, un gilet en cuir, un jean large et une marque noirâtre de strangulation. Lui aussi avait été coulé avec un parpaing relié à son cou par une chaîne métallique.
« Celui-là, au moins, je sais qui l'a tué, » murmura Edmé.
« Ah bon ?» s'étonna Paul Sérignon.
« Qui ?»
Edmé garda les yeux fixés sur le cadavre ruisselant qu'on halait sur les pavés moussus de la grève.
« Moi, » répondit-il dans un souffle.
L'enquête dans les milieux marginaux de la capitale ne s'annonçait pas facile. Les SDF et autres errants se méfiaient des représentants de l'ordre et se montraient peu coopératifs, voire franchement hostiles, dès qu'un flic en civil ou en uniforme leur adressait la parole. Ils dormaient rarement deux fois de suite au même endroit afin d'éviter les rafles lors des nuits les plus froides. Foncièrement individualistes, ils se fichaient du sort de leurs compagnons d'infortune comme de leur premier kill de rouge, et donc n'étaient pas des informateurs suffisamment fiables pour remonter une piste. Malgré la difficulté de la tâche, le commissaire adjoint et Patrice Giovanni avaient retenu l'hypothèse d'Edmé et lancé une partie des limiers de la crime à la chasse aux renseignements dans les rues de Paris. Les autres s'occuperaient de vérifier les fichiers, sécurité sociale, banque, téléphone portable, ADN, de tisser une toile aux mailles serrées dans laquelle, tôt ou tard, viendraient s'échouer des indices, des recoupements. On photographia les visages en bon état des cadavres récupérés dans la Marne, on distribua les photos aux officiers chargés de l'enquête, on procéda au prélèvement génétique afin de les confronter aux empreintes contenues dans le fichier central, on recensa les disparitions signalées dans tous les commissariats de la région parisienne depuis plus de 30 ans. Le commissaire adjoint, après avoir lu le rapport d'Edmé et l'avoir félicité pour son obstination et son flair, décida de mettre le paquet sur l'affaire que les furets de la presse appelaient déjà « le cimetière de la Marne » ou « les oxydes de la Marne ». Une deuxième affaire, encore plus énorme que le tueur des beaux quartiers, une véritable aubaine médiatique. Les peurs, peur de la guerre imminente au Moyen-Orient, peur de la précarité en ces temps de délocalisation forcenée, peur des catastrophes climatiques annoncées à grands cris par des cassandres de tout poil, peur des terroristes et des assassins se baladant en toute liberté dans les rues, toutes les peurs avaient entraîné un regain d'intérêt pour les quotidiens en perdition depuis une vingtaine d'années. Giovanni proposa à Edmé de faire partie de l'équipe qui procéderait aux vérifications des fichiers. Il avait assez payé de sa personne, et s'il refusait de prendre les congés auxquels il avait droit, il pouvait au moins rester au 36 quai des Orfèvres pendant que ses collègues crapahuteraient dans les rues. Edmé refusa. Il préférait participer au travail de terrain plutôt que de se morfondre dans les bureaux. Le chef de groupe l'associa à Paul Sérignon, et le tandem se mit aussitôt en chasse. Edmé proposa de commencer par une enquête de voisinage à Nogent. Il trouverait peut-être sur place un indice, un témoignage qui les mettrait sur une voie.
Son équipier objecta qu'on avait déjà entendu les occupants des pavillons voisins, qu'ils n'avaient rien vu, rien entendu, rien remarqué, à croire que les tortionnaires associés étaient invisibles.
Pas invisibles, seulement discrets, répliqua Edmé. Mais même discrets, quelqu'un a dû apercevoir quelque chose, une bagnole, une gueule, une scène, un signe distinctif.
Disant cela, il repensait la petite vieille, entrevue à la fenêtre du pavillon pendant qu'il se planquait dans le cabanon de jardin avec Sylvaine. L'avait-on interrogée? En outre, même si l'eau était plus discrète que les bateaux pour convoyer les cadavres, l'hypothèse de Blachon était plausible. Il était possible, voire probable, qu'un passant, un insomniaque ou un rameur nocturne ait remarqué quelque chose. L'artiste peintre de l'île aux loups avait bien surpris sans le savoir le nécrophile dans ses œuvres. Il fallait commencer par un point sur la carte. Paul dit encore que les flics du commissariat de Nogent avaient été chargés de mener l'enquête de voisinage et qu'ils risquaient de se vexer s'ils voyaient débouler de limiers de la crime. Edmé s'obstina. Il ferait tout ce qu'il jugerait bon pour l'enquête, au risque de froisser les susceptibilités des collègues. Paul finit par se ranger à l'avis du deuxième de groupe. Après tout, une semaine auparavant, il avait eu raison seul contre tous. Ils passèrent d'abord par la pitié salpêtrière, où ils ne réussirent pas à voir Sylvaine transportée une heure plus tôt au bloc opératoire. Edmé dissimula de son mieux l'émotion qui l'étreignait dans le hall d'accueil de l'hôpital. Il ne desserra pas les lèvres jusqu'à leur arrivée à Nogent. Sérignon vituperait le tabagisme passif. Un manque de civisme lamentable, mais il perdait lui-même tout sens civique lorsqu'il tenait un volant, jetant rageusement la 307 d'une voie sur l'autre sur la 4, doublant à droite et à gauche, ne respectant aucune limitation de vitesse, couvrant d'insanité les conducteurs qui n'avançaient ou ne se rangeaient pas assez vite.
« À chacun ses incivilités », songea Edmé, qui alluma une cigarette sans tenir compte du regard assassin de son équipier.
Les bords de la Marne avaient recouvré leur aspect paisible. Il faisait toujours gris et froid, comme si l'hiver était parvenu à supplanter l'été et l'automne dans le cycle des saisons. Paul se gara dans l'une des ruelles montantes perpendiculaires à la Marne.
« Évite de fumer dans la bagnole, merde » gronda-t-il, la main sur la poignée de la porte.
« Dès que t'auras arrêté de conduire comme un con. » Paul eut un petit sourire froissé, un air d'enfant grondé.
Edmé se dirigea sans hésitation vers le pavillon de la vieille femme. Aucune trace des collègues du commissariat de Nogent. Ils en avaient peut-être terminé avec l'enquête de voisinage ou marnaient déjà sur une autre affaire.
Edmé pressa à trois reprises la sonnette fixée sur le pilastre du portillon avant que les rideaux de la fenêtre donnant sur l'entrée ne s'entr'ouvrent et que le visage de la vieille femme n'apparaisse au coin d'une vitre. Paul lui montra sa plaque barrée de rouge et de bleu. Elle finit par ouvrir la fenêtre et avancer la tête dans l'entrebâillement.
« Police !» cria Paul.
Les yeux chafouins de la vieille femme restèrent quelques secondes fixés sur Edmé.
« C'est vous, n'est-ce pas ?»
Sa voix résonnait avec une clarté et une fermeté étonnantes.
« Vous qui vous êtes enfermé avec la dame l'autre jour dans la cabane du voisin ?»